Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les papiers du divorce sont prêts et il n'y a plus qu'à les signer. Après des jours et des jours d'âpres négociations, un accord de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a donc été trouvé. Un bon accord, explique-t-on à Londres et à Bruxelles, où on espère que le texte va être entériné par le Parlement britannique. Et c'est le léger problème qui reste pour tout le monde, pour que tout le monde se sépare bons amis, car on s'en souvient, le précédent accord avait été rejeté 3 fois. Le Premier ministre Boris Johnson n'a plus de majorité et ça s'annonce compliqué. Le risque d'une sortie sèche du Royaume-Uni est toujours bien présent et l'espoir d'un report aussi dans le camp d'en face. Qui est prêt pour le Brexit? C'est la question du jour. Et c'est aussi une question à plusieurs milliards de livres et d'euros. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, responsable macroéconomie et finance au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et Thibaut Arroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il y a donc un accord, le deuxième. Pour ce que vous en connaissez l'un et l'autre, parce que évidemment personne ici ne l'a lu dans le détail, comment il se caractérise par rapport au précédent peut-être, Anne-Laure Delatte?
Alors, il semble qu'il soit pas si différent de celui que Theresa May a présenté, que ceux d'ailleurs que Theresa May a présenté au Parlement britannique. Et d'ailleurs, il y avait un dessin il y a 2 jours dans un quotidien anglais qui montrait Boris Johnson avec les fameuses chaussures de Theresa May, parce qu'elle est connue elle est connue pour ça, pour son goût pour les chaussures, et elle disait mais moi je les porte mieux. Donc finalement, c'est un accord qui ressemble pas mal à celui que Theresa May a présenté. Mais pourquoi? Parce que en fait, on est quand même toujours autour des mêmes questions, et en particulier la question irlandaise. En fait, toute la question, le Brexit se fera ou ne se fera pas à cause de la frontière irlandaise. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'en parlait pas du tout en 2016. Donc il y a ce trilemme, cette trilogie impossible qui consiste à se dire... On ne veut pas de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ça, c'est le premier point qu'on ne veut pas. Le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas en même temps une différence entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Ça, ce sont les unionistes. Et le troisième point, c'est qu'on veut, on ne veut plus l'union douanière. Donc en fait, c'est une trilogie impossible. On n'arrive pas à résoudre les trois problèmes en même temps. Là, on a une solution qui a l'air de fonctionner, mais enfin qui a l'air assez complexe. Donc voilà le point.
On va en parler. Thibaut Arroy, cet accord, ce deuxième ou quatrième, puisqu'le premier a été modifié, on lui a adjoint une déclaration politique. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce que vous avez pu en connaître?
Alors, en effet, hein, comme ma collègue vient de le signaler, c'est un accord qui a été modifié uniquement à la marge. Et quand on regarde le texte tel qu'il a été publié cet après-midi, on voit bien que c'est une modification uniquement sur ce protocole en rapport avec l'Irlande qui a et que le reste de l'accord, c'est dit dans le texte, hein, reste inchangé. On vient d'évoquer ce problème de la question irlandaise. Quant à la déclaration politique, elle est en réalité assez vague. C'est un document qui continue d'avoir le même nombre de pages, une trentaine de pages, et elle est volontairement vague parce que le but, c'est de laisser une marge de manœuvre pour la suite, pour les futures relations avec l'Union européenne après que le Brexit aura véritablement eu lieu. Et puis, dans le but aussi de convaincre de potentiels partisans au sein de la Chambre des communes de voter en faveur de ce texte dans les prochains jours, avec l'espoir qu'ensuite la déclaration politique pourrait être amendée dans un sens ou dans l'autre.
Alors sur le problème principal, la frontière irlandaise, cette équation à au moins 3 inconnues que vous évoquiez, Anne-Laure Delatte, quelles solutions ont trouvé les négociateurs? Alors on va demander ça à Thibaut Arroy, sur les solutions qui ont été trouvées sur cette question de la frontière irlandaise.
Alors c'est une solution qui est assez complexe, hein. En réalité, l'Irlande du Nord pourrait rester dans le marché unique en ce qui concerne les biens. Dans ces cas-là, il y aurait des droits de douane perçus pour les biens entrant au Royaume-Uni, en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne. Et ça veut dire qu'il y aurait un alignement avec des règlements de l'Union européenne, notamment donc pour les biens, en Irlande du Nord. Et on vérifierait à l'entrée en Irlande du Nord et non entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
C'est pas la porte ouverte à un certain nombre d'abus, ça, de questions un peu compliquées.
Oui, tout à fait. Et c'est bien ce qui interroge sur la suite. C'est-à-dire que, pour l'instant, dans la mesure où le Royaume-Uni reste aligné avec l'Union européenne, ça ne pose pas de problème. Mais dans la mesure où l'espoir du Royaume-Uni, c'est de négocier de nouveaux accords, de s'ouvrir plus, notamment financièrement avec le reste du monde, de négocier de nouveaux accords avec le reste du monde, avec d'autres partenaires que l'Union européenne, on peut imaginer que d'ici quelques années, l'alignement ne sera plus tel que la frontière puisse rester ouverte.
Alors le Brexit, c'est dans 14 jours en principe, et en admettant que ce texte soit validé par le Parlement britannique, on va évidemment y revenir. Est-ce que ça va se passer tout en douceur dans deux semaines? Est-ce que finalement, si l'accord est validé, ça ne change rien pendant plusieurs mois à Nord de Latte?
Alors, il y a quand même toujours une énorme incertitude. Vous avez vu, j'imagine, les panneaux en France s'adressant aux citoyens britanniques qui peuvent aller consulter un site en particulier. C'est quand même très étonnant. On est dans une période pleine d'incertitudes. Alors, les douanes, il y a eu pas mal d'exercices qui ont été faits, mais il me semble que si ça se passe dans deux semaines, on verra des longues queues de camions, comme on a déjà décrit. Maintenant, la probabilité que ça soit dans deux semaines est quand même extrêmement faible. Ensuite, sur les marchés financiers, parce que là, il y a un point vraiment important, il faut quand même être conscient que plus de 70% des transactions en euros sur certains produits sont faites à Londres. En fait, les transactions financières européennes sont quasiment toutes faites à Londres et compensées à Londres.
La chambre de compensation en euros, elle est à Londres, en fait. Depuis des années et des années, la question, c'était de savoir où on allait la mettre, et ça va se faire en France, je crois, d'ailleurs.
Alors, il y a une partie qui va se faire, faire en France, et ce qui est étonnant, c'est que ça s'est fait sans qu'il y ait... si vous voulez, une nouvelle réglementation. En fait, le capitalisme a une certaine plasticité, et donc, quand les financiers ont compris qu'ils ne pourraient plus le faire tranquillement à Londres, ça s'est déplacé à Paris. Mais enfin, ça, c'est sur une petite partie des transactions. La plus grosse partie des transactions se fait toujours à Londres. Et on a un problème aussi avec l'Irlande, parce qu'ils n'ont pas de chambre de compensation. Donc ceci est... on est en période de transition, il ne va pas avoir une rupture radicale dans deux semaines. Évidemment, on a préparé. Mais un point qui est intéressant, c'est qu'on est en période de transition sur pas mal de questions financières jusqu'en mars 2020. Or, si on doit déménager des affaires financières, des organisations financières...
Ça fait peu de temps, oui.
Il faut au moins 3 mois. Et donc, ça veut dire que la Commission européenne devrait encore prolonger une extension, une période de transition. Donc voilà, sur les questions financières, pour l'instant, on n'aura pas d'extrême rupture dans deux semaines, mais on est quand même toujours dans une période de chantier.
Thibault Arroy, à votre connaissance, les douanes, on en a parlé, les entreprises, les expatriés de chaque côté de la Manche, ils sont prêts à basculer dans deux semaines?
Non, alors pour les expatriés, il y a une vraie incertitude aussi. Disons que leur statut n'est pas encore réglé, c'est-à-dire que ça dépendra de la future relation avec l'Union européenne. On peut imaginer que
Parce qu'on le rappelle, ce n'est que la première étape.
Hein, oui. Vous avez parlé de divorce. Maintenant, il va falloir régler le statut justement des enfants, des citoyens européens qui sont au Royaume-Uni, et des citoyens britanniques qui sont dans l'Union européenne. Et donc, c'est l'intérêt des deux parties de négocier un accord qui soit réciproque et qui permette aux citoyens européens de continuer de bénéficier d'un certain nombre de droits au Royaume-Uni, et des citoyens britanniques en échange de bénéficier des mêmes droits ou de droits comparables au sein de l'Union européenne.
Alors ça, on vient de parler de l'hypothèse selon laquelle l'accord était validé ce week-end par le Parlement britannique. Maintenant, dans le cas d'un Brexit sans accord, parce que c'est toujours possible, on va en reparler évidemment du Parlement britannique qui se fait un peu tirer l'oreille. Ces dernières semaines, on a entendu parler de possibles pénuries alimentaires, voire de médicaments, de crise financière. La livre a vécu une semaine très compliquée sur les marchés financiers, Anne-Laure Delatte. C'était pour faire monter la pression ou c'est un risque réel?
Alors, je crois que les marchés financiers sont dans l'incertitude et donc ils l'expriment par les prix à la fois des actions anglaises et de la livre sterling. Et effectivement, elle a subi pas mal de pression cette semaine. Et là, en particulier, quand il y a eu des annonces ce matin, en fait, ça ne s'est pas du tout calmé et il y a encore beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc la question est de savoir si l'accord va être validé par le Parlement samedi. Et là, il y a une énorme incertitude. En fait, Boris Johnson n'a pas la majorité, donc les marchés n'en savent pas plus que les autres, en fait. Hein, et donc cette incertitude se traduit dans des prix à la fois de la monnaie et des actions, des titres.
De possibles pénuries alimentaires, voire de médicaments. Comment, à votre connaissance, à vous, Thibault Arroy, qui êtes spécialiste en civilisation britannique, comment est-ce que les gens se préparent? Ils font des réserves?
Alors, on a vu des phénomènes comme ça de gens qui ont accumulé, en effet, des stocks chez eux. On a beaucoup parlé ça fait un peu rire aussi, des pénuries, par exemple, de papier toilette,
oui,
qui pourraient se passer. Mais plus sérieusement et plus problématique encore, c'est la question des médicaments, dont certains qui ne peuvent pas être stockés à long terme. C'est-à-dire pour certains biens, on peut les accumuler et les mettre quelque part dans une cave ou faire des stocks dans des entrepôts. Pour ce qui est des médicaments, c'est pas toujours possible. Et il y a certains traitements qui pourraient venir à manquer ou dont les réserves pourraient venir à s'amenuiser dans les semaines qui viennent en cas de rupture nette, rupture franche et donc un no deal Brexit avec l'Union européenne. Mais évidemment, pour l'instant, comme on vient de le dire, ça reste une hypothèse parmi d'autres.
Alors, une hypothèse dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, je le disais à Nordelat en introduction, c'est une question à plusieurs milliards de livres et d'euros. À qui est-ce que ça va coûter le plus cher, cette affaire?
Alors là, il n'y a aucune ambiguïté aux Anglais. C'est vraiment autant les économistes peuvent parfois se disputer sur le coût d'une politique à 1 million d'euros près ou quoi, mais là en gros ce qu'il faut retenir c'est le Brexit va coûter à tout le monde, ça va coûter cher aux Anglais et ça va coûter cher à l'Union européenne, mais ça va coûter 4 fois plus cher aux Anglais qu'à l'Union européenne. En fait le rapport il est de 1 à 4. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, plus la sortie est dure, c'est-à-dire moins il y a d'accord, plus ça va coûter cher aux Anglais et à nous, mais en particulier aux Anglais.
Donc toujours selon le même rapport, hein, 1 à 4.
De 1 à 4. Oui. Et donc la Banque d'Angleterre avait sorti une prévision extrêmement pessimiste qui coûtait 8% de PIB il y a un an. Elle a révisé ses prévisions autour de 6%. C'est beaucoup, hein, 6% du produit intérieur brut d'un pays, ça veut dire que vous éliminez la croissance de 3 années.
C'est ça, en récession pendant 3 ans, c'est ça que ça veut
voilà,
dire.
Voilà, exactement. Donc c'est très important. Au CEPI, on a des prévisions qui sont un petit peu moins pessimistes, mais enfin on est vraiment pas loin. Et ce qu'on retient, c'est le 1 à 4. Donc les Anglais vont sortir, il va falloir qu'ils trouvent un nouveau modèle pour compenser ça.
Tout cela reste donc suspendu à ce que va décider le Parlement britannique qui se réunit ce samedi. C'est d'ailleurs la première fois qu'il va se réunir un samedi depuis 1982 et la guerre des Malouines, c'est dire si la situation est grave. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Boris Johnson peut-il faire accepter cet accord, Thibault Arroy?
Alors, évidemment, ce serait une sortie par le haut pour lui de réussir à faire passer cet accord. Le problème, c'est que, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, il n'a plus de majorité depuis qu'il est devenu Premier ministre.
Il a perdu tous les votes qu'il a affrontés.
Il est allé jusqu'à exclure de son propre parti les 21 députés conservateurs qui avaient voté contre sa politique. Et donc ces députés-là ont fait perdre la majorité à Johnson, qui d'ailleurs n'avait une majorité que grâce au soutien d'un petit parti nord-irlandais qui s'appelle le DUP, qui soutenait jusqu'alors le parti conservateur et lui permettait de passer la barre pour avoir la majorité absolue. Donc à l'heure actuelle, même en comptant ce petit parti, il n'a plus de majorité absolue à cause du renvoi des députés conservateurs il y a quelques semaines. Donc ça va être extrêmement difficile de trouver une majorité samedi. À cela s'ajoute le fait que il pourrait éventuellement compter sur un certain nombre de députés travaillistes qui pourraient être tentés de faire passer un accord, puisque une sortie avec accord est préférable à une sortie sans accord. Le problème, c'est que la discipline du parti travailliste actuellement est de dire non, on ne votera pas pour ce texte qui est inadmissible et on ne soutiendra pas la politique de Johnson, même si c'est la seule possibilité qu'il aurait donnée. Donc pour l'instant, il est assez difficile de prévoir le résultat du vote, mais je suis assez sceptique sur la possibilité qu'aurait Boris Johnson de faire passer cet accord.
C'est ces incertitudes que les marchés financiers à la fois et les milieux économiques, le patronat, les entreprises craignent par-dessus tout, Anne-Laure Delatte.
Oui, en fait, effectivement,
ils sont comme tout le monde, ils ne savent rien. Quoi.
Non, voilà, ils ne savent rien, comme nous ne savons rien. Je crois qu'il faut vraiment l'admettre. Mais disons que, effectivement, si on fait un petit peu les maths, Boris Johnson va avoir du mal à avoir une majorité samedi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Parlement lui a interdit de sortir sans deal. Hein, pour l'instant, il n'a pas le droit de le faire. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que il va être obligé de négocier une extension, une nouvelle extension, et éventuellement, il y a une forte probabilité qu'il y ait de nouvelles élections. Donc, on rebat les cartes encore de la politique anglaise. Alors, voilà, le milieu des affaires anglais est extrêmement inquiet, mais pousse pour un Brexit avec un accord le plus soft possible, si vous voulez. Voilà, mais là on n'y est pas. On n'est pas non plus dans un Brexit sans deal, le no deal Brexit. Pour l'instant, on n'y est pas. Et heureusement, fort heureusement, parce que c'est vraiment, ce serait assez violent en fait, hein, pour l'économie anglaise.
Thibault Arroy, Boris Johnson a dit qu'il préférait crever dans un fossé, c'est le mot qu'il a employé, plutôt que de demander un nouveau délai. Mais si la loi l'y oblige, est-ce qu'il peut passer par-dessus ça ?
Alors on l'a évoqué, la possibilité qu'il puisse ne pas respecter ce fameux Ban Act, qui normalement l'oblige à demander le report. C'est quand même assez peu vraisemblable, ça serait quand même très mal vu de voir le Premier ministre ne pas obéir à une loi votée par le Parlement. Alors, maintenant, la possibilité d'une nouvelle élection, c'est en effet très probable. Le problème, c'est que pour avoir cette nouvelle élection, le Premier ministre a besoin de 2/3 des députés.
Donc des voix travaillistes.
Donc des voix travaillistes pour pouvoir dissoudre la Chambre des communes. Donc l'autre possibilité serait qu'il perde un vote de confiance. Et dans ces cas-là, on aurait une période de 14 jours pendant laquelle il serait possible d'organiser un nouveau gouvernement qui pourrait obtenir une majorité de circonstances autour d'une personnalité qui serait une personnalité consensuelle, aux ambitions limitées pour la suite. Le problème, c'est que personne ne sait qui pourrait être ce nouveau Premier ministre de transition et il n'y a vraisemblablement pas d'accord entre les différents partis d'opposition autour d'une figure qui pourrait rassembler et gérer les prochaines semaines.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit qu'un nouveau report n'était pas nécessaire. C'est le mot qu'il a employé en présentant l'accord aujourd'hui. Est-ce qu'il l'a exclu formellement ? Il y a discussion là-dessus. Est-ce que c'est de nature à faire accepter l'accord par le Parlement ? Est-ce que, grosso modo, on est en train de dire aux parlementaires britanniques, c'est ça ou rien ?
Je crois qu'on... Non, enfin, pas vraiment. C'est-à-dire que j'imagine que c'est une posture dans la négociation de dire, on ne fera pas d'extension ou ça n'est pas nécessaire. C'est quand même plus léger.
C'est plus soft.
Bien sûr. Oui, tout à fait.
Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas nécessaire dans la mesure où il y a le temps, avant le 31 octobre, de faire passer cet accord aux communes, puis au Parlement européen et enfin de le faire valider en Conseil. Le processus peut être rapide. Mais par contre, et donc je suis d'accord, c'est certainement aussi une manière de faire pression sur Londres en disant voilà, maintenant il faut avancer et faire passer cet accord coûte que coûte samedi.
En quelques mots, est-ce qu'il y a, selon vous, même en un mot, oui ou non, est-ce qu'il y a une raison objective pour que cet accord soit mieux accepté que le précédent, Anne-Laure Delatte ?
Alors moi, je ne pense pas. Je vais me risquer à faire un pari. Je ne pense pas qu'il passera.
Thibault Arroy,
je suis d'accord. Il n'y a pas de raison que si on a rejeté l'accord de mai, on accepte celui-là davantage.
Merci Thibault Arroy, merci Anne-Laure Delatte d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les Dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.